Les infos. À Washington, Idriss Fall.
Les Tchadiens ont voté dans le calme pour élire leur président parmi 13 candidats, dont le chef de l'État sortant Idriss Déby Itno, qui brigue un cinquième mandat. Le point avec notre envoyé spécial à N'Djamena, Bagassi Koura.
La mobilisation semble forte depuis ce matin. De longues files d'attente sont visibles devant la plupart des bureaux de vote que nous avons visités ici à N'Djamena. Les Tchadiens doivent choisir le nouveau président parmi 13 candidats. La nouveauté cette année, c'est la carte biométrique censée éliminer les fraudes. On a signalé quelques incidents. Certains n'ont pas retrouvé leur bulletin de vote. Dans un quartier de N'Djamena, il y a eu rupture de bulletin dès 10 heures ce matin. À Bolo, dans la région du lac, dans l'ouest du pays, jusqu'à midi, certaines sous-préfectures n'avaient pas encore les urnes. Un individu a été arrêté dans le 6e arrondissement de N'Djamena, la capitale. Selon le président du bureau de vote, il voulait voter une deuxième fois. Bagassi Koura, N'Djamena pour VOA Afrique.
Et le président sortant Idriss Déby Itno en a profité aussi pour lancer un appel à la classe politique.
Le Tchad doit sortir de ces élections-là grandi. Le Tchad doit sortir de ces élections avec son unité renforcée. À la classe politique, d'accepter de la manière la plus sincère et honnête possible le résultat des urnes, le choix du peuple. La vie continue, ça ne s'arrête pas à une élection. Après, ce qui est important, c'est la construction du pays, c'est la construction de ce continent-là pour les années à venir.
Et face à la forte mobilisation des électeurs, le candidat Saleh Kebzabo voit déjà une volonté affichée pour le changement.
La volonté du peuple tchadien, elle est inébranlable. Vous vous en rendrez compte au soir du 10 avril. Quels que soient les mécanismes de fraude qui sont mis en place, il y en a. On vient de nous signaler, par exemple, le bourrage des urnes. Nous qui pensions que le bulletin unique était un bulletin anti-fraude. Et je crois qu'aujourd'hui, si vous voyez des colonnes entières d'hommes et de femmes devant les bureaux de vote, c'est justement la preuve de cet engagement, de cet engouement, de cette volonté inébranlable de changement.
Voilà, et les Comoriens aussi se sont rendus aux urnes pour élire leur président. Le candidat du pouvoir, Mohamed Ali Soylihi, arrivé en tête du premier tour, affronte le gouverneur de la Grande Comore, Bouidi Baraka, et l'ancien poutiste Azali Assoumani, qui avait gouverné le pays de 1999 à 2006. Et trois policiers kényans ont été blessés dans l'attaque nocturne de leur poste de police par plus d'une centaine de combattants Shabab dans le district de Wajir, à la frontière avec la Somalie. Les combattants Shabab, par la suite, ont fui à bord d'un véhicule de police qu'ils ont saisi dans le camp après avoir incendié plusieurs commerces. La ville de Lagos est frappé par une sévère pénurie de carburant. Il y a de longues files d'attente et des embouteillages monstres dans la ville et les plus courageux même passent la nuit à faire la queue devant des stations d'essence. Le cours du pétrole a chuté de 70%, privant le premier producteur de brut du continent de sa principale ressource de revenus et faisant dégringoler à la fois la croissance et la monnaie locale, le Naira.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Mohamed Abrini, déjà inculpé dans le dossier des attentats de Paris, a été également inculpé d'assassinat terroriste pour les attaques du 22 mars à Bruxelles. Arrêté vendredi, Abrini a finalement reconnu être l'homme au chapeau qui avait quitté l'aéroport de Bruxelles juste avant le double attentat suicide. Les troupes syriennes préparent une opération pour la reprise d'Alep dans le nord avec l'aide de l'aviation russe. C'est ce qu'a affirmé le premier ministre syrien Wael al-Halki à l'occasion d'une rencontre avec les parlementaires russes à Damas. Au Yémen, des affrontements sporadiques ont opposé les forces loyalistes aux rebelles chiites à quelques heures d'une trêve à l'initiative de l'ONU qui veut organiser des pourparlers à partir du 18 avril pour mettre fin à cette guerre meurtrière. Et un incendie provoqué par un feu d'artifice mal maîtrisé a fait plus de 100 morts et 280 blessés, dont certains grièvement brûlés. Cette catastrophe est survenue lors de célébrations liées au nouvel an hindou dans un temple de la ville côtière de Paravur.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.